Et le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. La Corée du Nord menace de reprendre les essais nucléaires. Kim Jong-un parle même d'une nouvelle arme stratégique contre les États-Unis, ce qui n'inquiète pas Donald Trump. Nous rejoindrons notre correspondant dans la péninsule dans un instant.
Dans ce journal également, nous reviendrons sur les vœux d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a été peu loquace sur la réforme des retraites, au grand regret des syndicats et des élus.
5 milliards d'euros en moins sur l'impôt sur le revenu cette année. Promesse faite aux gilets jaunes par le gouvernement et promesse tenue, vous l'entendrez.
Et puis nous irons à Washington dans ce journal où Donald Trump menace l'Iran après la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad hier. Des milliers de manifestants s'y étaient rassemblés.
Après ce journal, vous retrouverez Frédéric Saïs, son billet politique et son invité à l'aube de cette nouvelle année. Ce matin, vous entendrez que les commémorations en 2020 seront très très nombreuses. Il promet une action sidérante contre les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un reprend son ton martial en ce 1er janvier 2020. Il est bien loin le temps du 1er janvier 2019, quand l'on sentait un espoir de réconciliation avec la Maison-Blanche, un espoir aussi de dénucléarisation de la péninsule. La page semble tourner avec cette nouvelle année. Bonjour Louis Paligiano.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant pour France Culture à Séoul. Louis, Kim Jong-un annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires.
Oui, c'est une déclaration résolument offensive qui vient clore la réunion plénière du comité central du Parti du Travail au pouvoir, un rassemblement rare qui a débuté samedi à Pyongyang pour 4 jours. Cité ce matin par les médias d'État, Kim Jong-un a prévenu que le monde sera témoin d'une nouvelle arme stratégique dans un avenir proche, en accusant Washington de gagner du temps à des fins politiques, alors que les négociations nucléaires sont au point mort depuis l'échec du deuxième sommet États-Unis-Corée du Nord en février dernier. Le Nord qui a menacé de prendre une nouvelle voie si Washington n'offrait pas de concessions avant la fin de l'année dernière pourrait ainsi rompre totalement le dialogue et reprendre les provocations.
Et nous le disions, Louis, il paraît loin le temps où Donald Trump et Kim Jong-un se serraient la main. La stratégie américaine ne semble pas fonctionner avec la Corée du Nord.
En effet, depuis leur rencontre historique, les deux hommes ne parviennent toujours pas à s'accorder pour faire correspondre les mesures de dénucléarisation de Pyongyang avec l'allègement des sanctions de Washington. Avant la présidentielle américaine, Trump ne peut néanmoins pas se permettre une nouvelle guerre des mots qui apparaîtrait comme un échec diplomatique et préfère répondre qu'il considère toujours le leader nord-coréen comme un homme de parole sur la dénucléarisation. Si l'on y regarde de plus près, les propos de Kim Jong-un restent suffisamment ambigu pour laisser entrevoir une issue diplomatique. Il a déclaré que la mesure dans laquelle le Nord renforcera ses dissuasions nucléaires dépendra de l'attitude future des États-Unis. Malgré sa posture belliqueuse, Pyongyang ne semble donc pas avoir totalement fermé la porte du dialogue.
Merci Louis Paligiano, correspondant de RFI à Séoul pour France Culture, après cette promesse pour l'instant non tenue de Kim Jong-un. Lui s'est bien gardé de faire des promesses. Rien de précis en tout cas lors de ses vœux aux Français hier soir, si ce n'est sur la réforme des retraites. Elle ira jusqu'au bout, selon les mots du président de la République, Emmanuel Macron. Dans un contexte de grève et de manifestation, il s'est voulu ferme, déterminé.
J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction, car il y a trop à faire. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien ? Non, car ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social.
Voilà pour l'engagement du président qui n'a pas apaisé la contestation. La réforme se fera, oui, reste à savoir comment. Les syndicats regrettent qu'aucune annonce n'ait été faite hier, Annabelle Grelier.
Il aurait suffi d'un signe, mais il n'est pas venu. Rien dans le discours d'Emmanuel Macron n'a permis de croire, de penser ou même d'espérer un changement de trajectoire vis-à-vis du projet de réforme des retraites. Emmanuel Macron demande au gouvernement d'Édouard Philippe de trouver la voie d'un compromis rapide, alors que la grève dure depuis près d'un mois et que tout porte à croire que la contestation ne va pas s'éteindre aussi facilement. Le chef de l'État n'a pas mentionné non plus l'âge pivot, dont la CFDT a fait une ligne rouge. Tout juste promet-il que la réforme prendra en compte les tâches difficiles, pour ne pas dire pénibilité, un mot qu'Emmanuel Macron déteste, tâche difficile donc pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt. Un sujet également défendu par la CFDT, mais cela suffira-t-il à obtenir la levée de la grève? Si Emmanuel Macron se dit toujours ouvert au dialogue, il ne semble pas ouvert aux concessions. Le dialogue se poursuivra avec les organisations syndicales qui le veulent, précise-t-il. J'entends sur ce sujet les peurs, les angoisses qui se font jour, j'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations, a déclaré Emmanuel Macron. Difficile en tout cas en ce début de nouvelle année de voir une sortie de crise. Le gouvernement a fixé au 7 janvier la reprise des négociations avec les syndicats, alors qu'une nouvelle journée interprofessionnelle de manifestations et de grèves est d'ores et déjà lancée pour le 9 janvier.
Une journée largement maintenue donc après ces vœux d'Emmanuel Macron qui n'ont pas convaincu ni à droite ni à gauche. Un discours vide, regrettent les uns, sans souplesse, disent les autres. Invité du journal de 22h de France Culture hier soir, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris, lui aussi a été surpris par la posture en retrait d'Emmanuel Macron.
On n'a pas eu un président combatif, on n'a pas eu un président militant, on n'a pas eu un président qui est allé au fond défendre son camp. On a eu le sentiment de quelqu'un qui était en retrait complètement et qui était au fond dans une forme de presque de refus de l'affrontement. Donc c'est très étonnant. Il cherche sans doute à gagner une posture supérieure, à retrouver ce qu'il avait joué au début, c'est-à-dire le côté jupitérien un peu détaché des réalités. Bon, c'est vraiment très étonnant. Il faut attendre la suite de la séquence pour savoir ce qu'il a en tête et quel lapin, entre guillemets, il peut sortir du chapeau. Il avait sorti le grand débat après le conflit des Gilets jaunes. Peut-être qu'il a une autre idée de ce type, mais sa posture ne doit pas être très rassurante pour ses partisans, en tout cas. La réalité, c'est que la réforme avait été très mal engagée et il se retrouve en quelque sorte à devoir commenter une bataille en cours qui n'est pas très bien engagée, il faut l'avouer, pour le gouvernement. Donc c'est pas une posture très simple. Du coup, il a adopté un ton totalement neutre, presque détaché de cette situation. Peut-être parce qu'il n'a pas envie, si la réforme échoue, de l'assumer jusqu'au bout. Peut-être parce que il a l'intention de changer de Premier ministre. Ou peut-être parce qu'il a une idée derrière d'action comme le grand débat l'avait été l'année dernière.
Des propos recueillis par Louis-Valentin Lopez sur la réforme des retraites. La négociation reprendra, je vous le rappelle, mardi prochain. Alors durant un quart d'heure hier soir, Emmanuel Macron n'a pas évoqué que les retraites. Il a dit souhaiter renforcer l'unité nationale, insistant sur le rôle de l'État et des services publics. Il a aussi vanté son bilan économique en matière de création d'emplois, d'entreprises, d'investissements. Un signe d'encouragement, selon lui, pour poursuivre ses réformes, en particulier dans l'éducation, la santé et l'environnement. En ce 1er janvier 2020, en tout cas, une promesse du chef de l'État entre en vigueur, la baisse d'impôts promise après la crise dite des Gilets jaunes. 5 milliards d'euros en moins sur l'impôt sur le revenu, visible dès ce mois de janvier. Bercy estime que cette baisse sera la plus sensible pour les revenus compris entre 20 et 25 000 euros par an, Anne Lorchouin.
La mesure a été entérinée dans le budget 2020 et Bercy calcule qu'elle devrait se traduire par un gain moyen de 350 euros par an pour les 12 millions de foyers de la première tranche d'impôt, ceux dont le taux d'imposition se situait à 14%, ce taux baisse à 11%. Ceux de la deuxième tranche, les 5 millions de foyers imposés à hauteur de 30%, économiseront, eux, en moyenne 180 euros par an. Une baisse qui partait d'un constat tiré après la crise des Gilets jaunes, l'entrée dans l'impôt est particulièrement brutale pour les classes moyennes. Il s'agissait donc d'adoucir cette entrée. Une recette qu'avaient déjà utilisée les précédents gouvernements, François Hollande notamment, qui avait lui étalé 6 milliards d'euros de baisse d'impôts sur 3 ans. Mais une recette qui, même si la somme globale est importante, apparaît souvent comme un saupoudrage vu de l'œil du contribuable. Même si la baisse sera immédiatement perceptible avec la contemporanéisation des impôts via le prélèvement à la source, elle sera au maximum de quelques euros par mois. Le gouvernement avance de son côté que cette baisse s'accompagne de la mise en application effective de l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages ou encore de la légère revalorisation du SMIC de 15 euros net par mois. Bercy, qui communique en outre sur ces changements en parlant de, je cite, « faire le choix pour les Français du travail qui paye ».
Anne-Laure Chouin. Anne-Laure qui évoquait une légère augmentation du SMIC en fonction de l'inflation à partir de ce 1er janvier. Pour cette nouvelle année, notez aussi que côté santé, le remboursement intégral de certaines lunettes et prothèses dentaires se met en place, alors que l'homéopathie sera, elle, progressivement déremboursée. Et puis au chapitre écologie, les cotons-tiges avec une tige en plastique seront interdits à la vente à partir d'aujourd'hui en France.
Il est 8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Selon Donald Trump, Téhéran aurait orchestré l'attaque de l'ambassade américaine en Irak hier.
Des milliers de manifestants pro-Iran l'ont prise d'assaut, criant des slogans comme « À mort l'Amérique ». Il s'agissait de manifestants donc pro-Iran, mais Téhéran assure n'y être pour rien. Qu'importe pour la Maison-Blanche, qui renforce la sécurité autour de l'ambassade à Bagdad. Il s'agit en fait d'envoyer des troupes supplémentaires sur place, Grégory Phillips.
Il n'est, pour l'instant en tout cas, pas question d'évacuer le personnel diplomatique de cette ambassade américaine située au cœur de la zone verte à Bagdad. Le département d'État confirme que les diplomates restent en poste, mais dans le même temps, le Pentagone annonce l'envoi sur place d'une centaine de Marines supplémentaires qui vont sécuriser les lieux. D'autres troupes, plusieurs centaines de soldats, affirme un responsable américain, sont déjà en route pour le Koweït, voisin de l'Irak, et seront appelés en renfort si la situation se détériore. Hier à Bagdad, on a vu aussi des hélicoptères Apache américains survolaient l'ambassade et les manifestants pour les impressionner. Pour la Maison-Blanche, il ne fait aucun doute que c'est l'Iran et les brigades du Hezbollah qui se trouvent derrière ces manifestations anti-américaines violentes. Hier soir sur Twitter, le président Trump écrivait ceci « Les Iraniens paieront le prix fort, ce n'est pas une mise en garde, c'est une menace et bonne année ».
Une nouvelle année qui a débuté en Australie entre de violents et meurtriers incendies et un énorme feu d'artifice à Sydney. Malgré les critiques de certains, la ville l'a maintenue. Ambiance lumineuse sur Times Square à New York et sur les Champs-Élysées à Paris. Des promesses d'unité, de développement de Moscou à Rio en passant par Londres. À Hong Kong, en revanche, 2020 a débuté dans la violence. Les forces de l'ordre ont fait usage lors de la nuit du réveillon de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser la foule de militants. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans la ville pour un nouveau rassemblement anti-gouvernement. Au Liban maintenant, l'ancien PDG de Renault-Nissan a sans doute passé le réveillon en famille. Lui qui a fui le Japon en début de semaine. Il y est accusé de malversation financière. Et c'est donc à Beyrouth qu'il est allé trouver des soutiens. Carlos Ghosn a la nationalité libanaise et il est aux yeux de nombreux Libanais le symbole du succès de la diaspora. Adoubé donc, aussi bien dans les sphères économiques et politiques que dans la rue, Aurélien Colli.
C'était un homme bien qui donnait une bonne image du pays. Confidence d'un homme d'affaires croisé dans le quartier huppé où Carlos Ghosn a l'habitude de résider. Un Libanais qui regrette la chute d'un modèle, mais qui soutient sa fuite du Japon, comme Georges croisé un peu plus loin.
Nulle personne n'a le droit d'être traité comme Carlos Ghosn a été traité. Même si un jour on prouvait qu'il était malhonnête, ce qui s'est passé n'est pas humain.
Carlos Ghosn victime, le sentiment de nombreux Libanais aveuglés par la réussite de cet enfant du pays, qui a promis de prouver son innocence maintenant qu'il est au Liban. Libéré, comme il l'a dit, de l'injustice du système judiciaire japonais. Au centre-ville de Beyrouth, cœur de la contestation qui secoue le pays depuis mi-octobre, on est plus sceptique en revanche sur le cas Carlos Ghosn. En route pour son réveillon, Faïd ironise sur le flou qui entoure son arrivée au Liban.
Un grand mystère, je pense, qui entoure cette fuite. Beaucoup de rumeurs, qu'est-ce que j'ai lu récemment, comme quoi il était parti dans une grosse caisse de musique avec un orchestre. Je pense pas que ce soit nécessairement une bonne image pour le Liban de l'accueillir à bras ouverts.
Mobilisée depuis le début de la contestation sociale, il y a 2 mois et demi, Anna, la vingtaine, est-elle encore plus radicale avec l'ancien PDG?
S'il est fautif, il doit être en prison, même s'il est au Liban. C'est pour cela qu'il est venu au Liban, parce qu'il sait qu'il ne va pas être poursuivi en justice. Enfin, j'espère que quelque chose change au Liban un jour. Qu'en 2020, la révolution va faire quelque chose, enfin.
Changer le Liban pour un système plus transparent, plus juste. Une révolution qui passe aussi par une moralisation de la vie politique et des affaires.
C'était un reportage d'Aurélien Colli pour France Culture. Enfin, fini la Hollande, bonjour les Pays-Bas, exclusivement. En ce 1er janvier, le gouvernement néerlandais veut mettre fin à une expression, une dénomination passée dans l'usage courant, mais qui ne veut en fait rien dire, Johanna Hochstein.
Le royaume des Pays-Bas est en fait composé de 12 provinces, dont la Hollande septentrionale, où se trouve Amsterdam, et la Hollande méridionale, qui abrite des villes comme La Haye et Rotterdam. Utiliser Hollande pour désigner l'ensemble du territoire néerlandais n'est donc pas correct. Le terme s'est en fait imposé au XIXe siècle parce que les deux provinces étaient devenues le poumon économique du pays. Aujourd'hui, le gouvernement néerlandais veut mieux contrôler son image à l'international et se débarrasser de l'appellation Hollande. Quoi de mieux que l'année 2020, ponctuée de grands événements internationaux, les Jeux Olympiques, l'Euro de football et l'Eurovision organisée à Rotterdam. Pour ce faire, le Royaume s'est doté d'un nouveau logo pour la modique somme de 200 000 euros et fait de la publicité pour ses régions méconnues, la Frise par exemple, pour les balades à vélo. L'objectif de cette grande campagne de communication est bien de désengorger la Hollande et attirer les touristes vers d'autres provinces. En 2030, les visiteurs qui affluent à Amsterdam risquent d'être deux fois plus nombreux qu'aujourd'hui.
Et nous quittons les Pays-Bas pour la France avec un mot de météo. Seul le sud-est du pays sera ensoleillé ce mercredi. Des nuages bas et des brouillards seront nombreux sur la moitié est. Des pluies vont tomber à l'ouest. Pour les températures, comptez moins 2 à Besançon, 0 à Lille et Lyon, 2 degrés à Paris, 8 à Rennes et Bordeaux, 9 degrés à Nice pour cette première matinée de l'année. Benoît Bouscarel.
Merci Clara Lecoq-Réal.